savoir, Louise Touret.
Bienvenue dans le magazine de la transmission des savoirs et de l'éducation de France Culture. Nous sommes ensemble pour une heure et nous parlons de l'école dans cet antépénultième numéro de la première saison d'Être et Savoir. Vous le savez, de la fin mai à la mi-juin, c'est le moment des derniers conseils de classe de l'année pour les collégiens et les lycéens. Eh bien, nous allons faire le conseil de classe de cette année de politique éducative. Nous ne donnerons pas de notes, mais des appréciations, des commentaires et ils seront contrastés. Nos trois invités journalistes spécialisés décryptent les réformes de l'école et leurs effets au Figaro pour Marie-Estelle Pech, à l'Obs pour Gurvan Le Guélec et à Mediapart pour Faïza Zerwala. Avec eux, nous allons débattre de la méthode Jean-Michel Blanquer, de sa loi sur l'école et des accusations de fake news à l'égard des syndicats. D'ailleurs, la contestation des enseignants va-t-elle s'essouffler ? Aujourd'hui, c'est autour d'une grève de la surveillance du bac que se cristallisent les inquiétudes. Enfin, les réformes du lycée et du bac, du brevet, maintenant, cela vient d'être annoncé, l'effectivité de la maternelle obligatoire à 3 ans et des consignes ministérielles de plus en plus précises pour les enseignants du premier degré montrent un volontarisme tous azimuts pour une politique menée tambour battant. L'actualité de l'école devient-elle trop difficile à suivre et à comprendre ? Nos invités devraient nous aider à voir plus clair dans cette avalanche de réformes. D'où viennent les chefs-d'œuvre de la littérature jeunesse ? Peut-être dans le cas de Benjamin Chaud, des heures passées à bouder dans les arbres et du désir de dessiner comme un demi-dieu et puis de l'amour du rose. L'auteur et illustrateur sera l'invité de la leçon de choses de Sophie Bobert en fin d'émission. Être et savoir, c'est une émission préparée avec Avril Ventura, réalisée par Philippe Baudouin, avec Pierrick Monsigny à la prise de son aujourd'hui. Un programme que vous pouvez écouter, podcaster et balado-diffuser via le site de France Culture, par exemple. Et on va saluer les invités de ce numéro d'Être et Savoir, donc consacré à l'école et ses réformes. Bonjour Faïza Zerwala.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Mediapart, vous écrivez sur l'éducation. On peut indiquer aussi que vous aviez publié un livre en 2015, Des voix derrière le voile, chez Premier Parallèle. Bonjour Gurvan Le Guélec.
Bonjour.
Vous êtes à l'Obs que vous officiez, où vous écrivez également sur l'éducation et ses réformes. Beaucoup de travail cette année, beaucoup d'articles ces dernières semaines. Marie-Estelle Pech, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au Figaro, au service Société Éducation. Et vous, vous aviez aussi publié un livre sur l'école de la triche. Ça date un peu, 2011, mais on peut encore le lire, surtout au moment des examens. Alors, je profite aussi de cette présentation pour saluer tous les journalistes que je lis régulièrement. Marie-Christine Corbier aux Échos, Marie Picmal à Libération, ceux du Monde aussi, Mattea Battaglia, Violaine Morin, Luc Sédel, Guillaume Ouattara au Figaro étudiant, pas mal pour suivre Parcoursup, c'est un dossier compliqué. Christelle Brigodeau au Parisien aujourd'hui en France, Erwin Canard à l'AEF. Ça m'inspire une première question. Est-ce qu'il faut être journaliste spécialisé et bien connaître les enjeux de l'éducation pour arriver à comprendre, un, ce qui se passe et deux, pour arriver à en restituer les enjeux auprès du public ? Faïza Zerwala.
Pas forcément. Après, évidemment, on a une place privilégiée parce que suivre en continu un sujet, ça permet évidemment de mieux l'appréhender, de pouvoir comprendre les liens qui sont faits entre, par exemple, la réforme de l'enseignement supérieur et la réforme du lycée et la réforme du bac. Donc oui, mais notre rôle reste quand même toujours celui de médiateur, médiatrice. L'idée, c'est pas d'écrire des choses complètement obscures que les humains normaux ne pourront pas comprendre. Nous, notre but, tous autour de la table, c'est de réussir à expliquer que les enjeux éducatifs, quand bien même vous n'avez pas forcément d'enfants, c'est quelque chose qui peut vous concerner parce que ça donne quand même de bons indicateurs sur ce qu'est notre société et les choix politiques aussi qui sont faits, parce que c'est, contrairement aux apparences, c'est un sujet très politique qui ne se cantonne pas au poids du cartable ou à l'interdiction du téléphone portable à l'école.
D'ailleurs, ça ne fait pas partie des sujets que j'ai choisi d'aborder dans le cours de cette émission.
Bizarrement.
Gurvan Le Gaellec.
Oui, mais d'où la nécessité quand même des journalistes spécialisés, je dirais justement, parce que il y a une tendance peut-être parfois un peu regrettable à réduire les sujets éducatifs à des choses qui sont peut-être un peu secondaires, en oubliant les grandes questions de fond qui mériteraient davantage d'être traitées.
Qui seraient lesquelles pour vous?
Où mettons les priorités, le primaire ou le secondaire? Qu'est-ce que c'est que cette réforme du lycée qui donne plus de liberté de choix, entre guillemets, aux jeunes gens, à quelles conditions, à quel prix? Il y a des vrais enjeux réels en termes de politique publique. Et puis pour l'avenir de nos gamins en général. Et c'est vrai que parfois, quand c'est traité par des journalistes plus politiques, je pense à la loi Blanquer, on l'a vu, on finit par se concentrer sur des histoires de assez symboliques qui ont leur intérêt. Les symboles sont importants, l'école aussi, la carte de France au mur, ou des choses comme ça. Mais on oublie, oui, le fond, notamment les questions pédagogiques qui sont quand même cruciales, parce que l'école française ne va pas si bien. Elle est, on le sait, très inégalitaire. Elle n'est pas très performante dans les grandes enquêtes internationales, et pourtant les enseignants sont mobilisés, donc il y a du boulot, mais il y a du boulot sur la pédagogie, l'organisation.
Marie-Estelle Pech, vous suivez l'éducation depuis un peu plus longtemps que vos petits camarades, et puis moi aussi je suis le dossier de
nous sommes des dinosaures, ouais, on peut le dire.
On peut le dire. Et donc, faut-il avoir une bonne connaissance des arriérés des dossiers pour pouvoir expliquer ce qui est en train de se passer au grand public, au public tout simplement, aux citoyens, alors que, et là je reprends une formule de Gurvan Le Gaellec, on est devant une avalanche de réformes, à un rythme de réformes extrêmement soutenu.
Eh ben, c'est tout l'intérêt effectivement d'avoir des journalistes spécialisés, quel que soit le sujet d'ailleurs, on peut le dire pour la police, pour la justice, enfin l'international, parce qu'on a une mémoire des réformes, on a une capacité je pense à mettre en relation une réforme par rapport à l'autre, dire que non, la réforme du lycée ce n'est pas non plus une révolution, que ça a déjà été tenté par le passé, que ça a déjà été beaucoup voulu dans le passé. On peut pas dire à la fois qu'on ne veut pas une réforme du lycée qui effectivement qui va supprimer des postes et applaudir lorsque l'OCDE vous dit que on dépense trop d'argent au lycée et pas assez dans l'enseignement primaire. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut mettre en perspective. On va pas simplement nous tendre le micro, par exemple, aux syndicats d'enseignants qui vont défendre leur paroisse, ou au ministère qui, lui, va défendre peut-être une vision parfois plus budgétaire. On est capable peut-être davantage, en tout cas plus vite, parce que tout le monde, ça, est capable de le faire, mais de mettre les choses en perspective. Mais je pense qu'on va le faire beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui n'est pas spécialisé. Cela dit, un journaliste qui n'est pas spécialisé en matière d'éducation, comme dans tout autre sujet, il va être, lui, capable peut-être d'apporter une certaine fraîcheur, une certaine spontanéité sur les sujets que nous on peut perdre au fil du temps, et c'est toute la limite du journaliste spécialisé qui est parfois un peu enfermé dans ses chiffres, dans ses rapports, qui va vous dire qu'en 2003 il y a eu telle réforme qui a pas marché, etc., etc., donc qui est parfois un peu agaçant. Mais oui, je pense qu'il faut absolument continuer à avoir des journalistes spécialisés en éducation, comme sur toutes les grandes thématiques.
Vous êtes appelée vous-même dinosaure, Marie-Estelle Pech. Vous avez pu suivre la période où Jean-Michel Blanquer, l'actuel ministre, était DGESCO, donc directeur de l'enseignement scolaire. C'est le numéro 2 du ministère. Est-ce qu'on retrouve aujourd'hui, dans les réformes telles qu'elles sont formulées, quelque chose de son action lorsque c'était Luc Chatel qui était ministre de l'Éducation et Nicolas Sarkozy, président de la République?
Alors, moi, je dirais qu'on retrouve encore plus. Il faut remonter encore plus loin. C'est quand il travaillait avec Gilles de Robien, qui était ministre de l'Éducation dans les années, je crois, 2005, 2006, je ne sais plus exactement, et qui avait lancé une grande bataille sur la réforme de la lecture, de l'apprentissage de la lecture. Et Jean-Michel Blanquer s'était pas mal investi là-dedans sur les histoires de méthodes, de querelles de méthodes alphabétiques, semi-globales, etc. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui lui tient à cœur. C'est à ce moment-là qu'il avait d'ailleurs fait la connaissance de Stanislas Dehaene, qui est aujourd'hui président du conseil scientifique, hein, voilà, qui réfléchit justement à toutes ces questions pédagogiques. Donc il a construit tout son personnage, toutes ses convictions en matière d'éducation. Ça fait des années et des années qu'il les a construites. Il a écrit un livre programmatique qui est assez clair sur ses idées. Et bien entendu que toute sa carrière, à la fois politique, mais aussi tout simplement en tant que recteur, l'a conforté dans les idées qu'il met en place aujourd'hui. À commencer par exemple par ces questions de retour aux fondamentaux, d'insistance sur les fondamentaux, bon, qui peut paraître anecdotique ou agaçante aux yeux de chacun, mais qui en fait est une thématique qui est très chère aux yeux des parents. Ils en parlent beaucoup de ces histoires de méthode.
Et en tout cas, le ministre suit son fil avec des réformes, je l'ai dit, qui s'enchaînent à un rythme rapide. Alors j'ai retrouvé une tribune, enfin elle n'est pas si ancienne, d'un chercheur qui s'appelle Xavier Ponce. Elle était publiée dans Le Monde le 11 mars dernier. Et le chercheur fait un petit peu la liste des réformes en cours. Elles sont donc extrêmement nombreuses et parle d'un puzzle qu'il est difficile de reconstituer. Et parle aussi d'une finalement grande réforme très en profondeur, mais qui serait presque invisible parce que nous sommes placés devant à la fois une loi, des circulaires aux enseignants, une réforme du bac, tous ces éléments qui paraissent disparates, mais qui offrent peut-être une vision qu'on n'arrive pas vraiment à formuler parce que le ministre ne le fait pas lui-même, Gurvan Le Gallec.
Oui, c'est vrai, c'est très intense. On a énormément de réformes qui ont été lancées. On peut avoir cette impression de dispersion, mais je suis assez d'accord avec ce chercheur. Il y a une vraie cohérence derrière. C'est intense, ça va très vite. Et ça va très vite finalement parce que je pense qu'on a un ministre qui veut vraiment mettre en œuvre sa vision du monde éducatif. C'est ce que disait Marie-Estelle. Il a très clairement d'ailleurs expliqué ce qu'il souhaitait faire et d'une certaine manière, il suit la ligne qui s'était fixée dans ses bouquins programmatiques. Donc ça va très vite, l'intendance a du mal à suivre, on le voit, le cabinet est tout petit, là on a trois plans, un plan internat, un plan violence.
Ils sont épuisés. Ouais.
Un plan langue qui sont en suspens,
ouais,
qui sont sans cesse reportés. Et donc on a l'impression que les plans se succèdent sans lien, mais il y a quand même une cohérence.
Est-ce que vous pouvez me définir votre vision de cette vision? Parce que moi j'ai lu les livres de Jean-Michel Blanquer, mais ce n'est absolument pas le cas de tous nos auditeurs. Donc comment on pourrait la qualifier, cette vision? Qu'est-ce que vous voyez, vous?
Mais pour moi, il y a deux idées fortes. La priorité aux toutes petites classes de primaire, ce que disait Marie-Estelle avec cette guerre, il faut absolument revenir au béaba.
On peut investir.
Donc c'est priorité financière et reprise en main pédagogique très forte sur les petites classes parce que pour Jean-Michel Blanquer, je pense que les choses, il le dit d'ailleurs, sont en grande partie actées avant 7 ans. C'est d'ailleurs un peu vertigineux de les entendre dire ça parce que Dehaene dit à peu près la même chose. Et donc il faut agir avant 7 ans, après... Vous avez peu de chances finalement de rétablir les choses, les difficultés scolaires sont enquistées et comme le disait Aucat de l'administration, c'est des merdons zizish. Voilà, donc on met vraiment le paquet sur les premières années et on le voit, c'est là où il est très prescripteur avec les enseignants, ensuite il est quand même peu de choses sur le collège finalement. Et un deuxième axe. Et là, c'est davantage sur la fin donc de la scolarité au lycée, avec la réforme du lycée qui est très intéressante, où on est dans une idée de responsabilisation des gamins, en même temps liberté de choix, puisqu'ils auront la capacité de façonner leur parcours, mais responsabilisation, c'est le côté un peu anti-glandouille, quoi. Il faut se prendre en main, on a 15 ans, allons-y, ça continuera après avec Parcoursup aussi, où il faut penser à se projeter dans son avenir professionnel. Ça peut être un peu troublant pour les parents, parce que 15 ans, c'est jeune, mais on est dans cette idée-là qui amène aussi, avec le côté très lycée à la carte, à discrètement faire passer une réforme aussi de la gouvernance et de l'organisation des établissements. Et ça, c'est vrai, ce que dit votre chercheur, c'est qu'on a toute une part de la politique qui se fait un peu en dehors des radars. Et notamment les transformations profondes, je pense, qu'il cherche à mettre en place dans le mode d'organisation et de fonctionnement des écoles, qu'il souhaiterait beaucoup plus proche des écoles privées. Il vient de là, Jean-Michel Blanquer, il a été éduqué dans des écoles privées. Il a été le patron de l'ESSEC, qui est une école commerciale privée. C'est quelqu'un qui admet d'ailleurs assez ouvertement qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans le mode fonctionnement des écoles privées et qui pourraient être appliquées dans le public.
C'est l'idée d'autonomie des établissements, une idée qui politiquement est portée par la droite,
pas
traditionnellement.
On a des organismes, par exemple l'OCDE, qui poussent beaucoup vers, qui considèrent que l'autonomie des établissements a apporte davantage d'efficience. Et cette autonomie, notamment dans les lycées, elle est déjà à l'œuvre en vérité, depuis longtemps.
Mais une idée très contestée par les syndicats. Faïza Zerwala, sur à la fois cet enchaînement de réformes, d'annonces très rapides, et puis cette vision dans ce conseil de classe de la politique éducative, comment vous la jugez-vous, cette vision du ministre? Est-ce que vous arrivez à voir en quoi, comment vous la qualifieriez?
En réalité, Jean-Michel Blanquer sait. Ça, pour moi, c'est le préalable indispensable à avoir en tête quand on s'intéresse à l'éducation. C'est Jean-Michel Blanquer a une idée ultra précise de ce que doit être la politique éducative. Il a toujours la bonne étude sous la main. Ce n'est pas quelqu'un de très ouvert au dialogue, contrairement à ce qu'il explique, parce que il va dire si on a engagé une concertation. Mais en réalité, Jean-Michel Blanquer entend peut-être, mais n'écoute personne. On sent aussi que Jean-Michel Blanquer a envie de marquer les esprits lors de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance. À plusieurs reprises, il a rappelé que Jules Ferry avait aussi dû tempêter contre les critiques pour sa loi, expliquant que lui aussi, il était critiqué par certains opposants parce qu'il met en place la scolarité obligatoire, enfin l'instruction obligatoire à l'âge de 3 ans, sachant que 97,6 des enfants sont déjà scolarisés. Ça apparaissait comme une mesure un petit peu cosmétique. Mais après, voilà, reste toujours cette question de comment on articule toutes ces réformes entre elles. Et je pense aussi qu'il a peur de passer pour le ministre qui n'arrive pas à tenir le paquebot Éducation nationale, réputé irréformable, ingouvernable. Donc je pense que lui, il se vit vraiment en opposition avec ça. Il a vraiment envie de réformer, de dessiner une école qui laisse plus de place à la liberté, mais en réalité c'est toujours une liberté contrainte.
En même temps, si on attend que toutes les conditions idéales soient réunies pour mettre en œuvre une réforme, on la fait jamais. C'est ce que me disait un proviseur du SNPDN, parce qu'il y a quand même aussi des syndicats qui soutiennent l'action du ministre. Ils sont pas tous hostiles, loin de là. Et il disait, évidemment qu'il faut... D'ailleurs, je l'ai vu, moi j'ai vu plusieurs ministres d'éducation, à chaque fois, on leur reproche tout le temps de ne pas assez écouter, etc. Mais forcément, ils écoutent, évidemment. À un moment donné, ils tranchent, et c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde. C'est surtout ça, en fait, ce qui se passe avec Jean-Michel Blanquer.
Oui, mais la différence, c'est aussi peut-être l'ampleur, parce que là, on est sur tous les fronts. Le collège était le dernier front qui avait été à peu près laissé tranquille, et là, Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'il allait réformer
le brevet.
Oui, alors, il me semble, j'ai vu un certain nombre de ministres passer, qu'ils ont tous toujours envie de faire beaucoup de réformes. Najat Vallaud-Belkacem annonçait aussi énormément de choses, était extrêmement médiatisé, c'est exactement comme Jean-Michel Blanquer. Vincent Peillon également, mais il est resté beaucoup moins longtemps. Benoît Hamon, lui, il n'a pas eu le temps de faire une rentrée scolaire, donc on l'a pas tellement
entendu.
Parce qu'on
a vraiment besoin de parler de
trois mois, vacances scolaires.
Luc Chatel, lui, était là plutôt pour apaiser les esprits après l'épisode, la période Xavier Darcos, qui lui avait fait feu de tout bois.
Et la réforme du lycée.
Il y avait énormément de réformes aussi sous Xavier Darcos. Donc non, je pense pas que Jean-Michel Blanquer se distingue particulièrement pour son appétit de réforme et d'apparence médiatique. Je pense qu'il est tout à fait conforme à ce qu'attend en réalité un président de la République de son ministre de l'Éducation, parce que c'est une matière très, très riche, qui implique énormément et qui intéresse énormément la population. Et donc il s'attend à ce qu'il soit très présent médiatiquement, évidemment, et aussi en termes de réforme.
Et une matière très inflammable également, puisque les ministres de l'éducation sont toujours contestés. En tout cas, Jean-Michel Blanquer l'a été au sujet de sa loi. Parole d'enseignant entendue en manifestation, c'est un extrait d'un reportage du Parisien qui publie aussi des vidéos sur son site. Et ça a été publié le 30 mars dernier.
Alors je vais crever, je vais me barrer peut-être. Je vais me barrer, je vais peut-être démissionner, j'en sais rien. Ce sont les conditions d'enseignement, quoi, le nombre d'élèves par classe, les journées difficiles qu'on passe, à faire plus d'éducation que d'enseignement du coup. Moi, je suis toute jeune dans le métier et déjà, je me rends compte que ça va pas aller. Si ça continue comme ça, je veux pas y faire ma carrière. Et pourtant, à la base, j'ai toujours voulu faire ça, c'était ma vocation. Donc, je trouve ça triste, tout ce qui est énuméré là, mais c'est triste. Donc, il faut réfléchir parce que je veux y faire ma carrière, je veux être bien dans mon métier. Et là, j'ai peur que ce soit plus le cas du tout.
Les points de crispation de cette loi, c'est en fait une volonté de faire des économies en ramenant les écoles et les collèges dans une même structure administrative et donc une perte de proximité pour les parents sous couvert de donner une plus grande autonomie.
Vous avez tous les trois couvert les manifestations du mois d'avril. C'était au moment où la loi a été discutée à l'Assemblée, puis au Sénat. Avant, il y avait eu aussi Pas de vague, plutôt sur Twitter, mais où les enseignants parlaient de leur quotidien. Et puis, les stylos rouges. Que pensez-vous de cette contestation des enseignants? Contestation tout de même relativement massive dans le premier degré et surtout à Paris, Gurvran Le Guélec.
C'est une contestation étonnante, assez paradoxale, parce que on est très français. Il aura fallu finalement une loi qui est quand même ce qu'on appelle un cavalier budgétaire. C'est une loi qui est pas très cohérente, la loi Blanquer, la loi pour l'école de la confiance, qui vient donc toucher à plein de sujets éducatifs pour que la protestation prenne. Alors qu'il y avait plein d'autres raisons, il y avait beaucoup de raisons de éventuellement de se mobiliser plus tôt, puisqu'on le disait, le ministre, notamment dans le premier degré, a des idées très précises sur ce qu'il faut faire, qui ne correspondent pas du tout à l'idée qu'en ont les syndicats et une partie des enseignants. Mais ça n'est pas pris jusqu'à présent. Une partie des syndicats, oui, mais on peut dire si quand même sur les prescriptions pédagogiques quand même, même sur les syndicats réformistes quand même, ils sont quand même assez, le petit livret orange, ils sont assez quand même réservés.
Le petit livret orange,
qui vient expliquer donc aux enseignants de CP et CE1 comment il faut faire cours minute par minute, un peu à la manière de Luc Ferry, effectivement, dont on parlait, qui savait qu'à 9h, tout le monde faisait la dictée dans toutes les écoles de France.
Vous avez dit Luc Ferry.
Ah, j'ai dit Luc encore, mais il sera enchanté, j'imagine.
Du lapsus.
Du lapsus. Donc il y avait quand même des raisons de se mobiliser et la protestation prend sur cette loi Blanquer qui est donc assez qui n'est pas très cohérente, qui n'exprime pas la cohérence de l'action ministérielle. Il y avait en plus des points dans la loi qui éventuellement étaient très sensibles, la disparition du CNESCO qui était quand même l'organisme public chargé de l'évaluation des politiques publiques que ce ministre qui aime l'évaluation fait disparaître, donc l'organisme qui était censé l'évaluer, c'est un peu paradoxal. Il y avait tout un passage sur la formation des maîtres qui était intéressant également et qui pose des questions, toujours sur ce qu'on doit apprendre à nos futurs professeurs des écoles. Et puis ce qui ressort finalement, ce qui va vraiment mettre le fou aux poudres, c'est des questions plutôt statutaires.
Comme souvent,
effectivement. Et c'est pas des questions pédagogiques, c'est pas les
comme
questions de fond.
Comme des questions statutaires questions ou symboliques même.
Et symboliques, effectivement.
Mais comme la fusion assez marginale, mais inquiétante pour des enseignants, des établissements du premier et du second degré dans une nouvelle entité.
Au sein des écoles, des savoirs fondamentaux qui seraient des écoles du socle. Le problème, c'est que... alors, effectivement, ça a créé... cette question a soulevé beaucoup d'angoisse, d'inquiétude chez les enseignants qui ont vu là une remise en cause du rôle des directeurs d'école qui auraient été amenés à disparaître. Or, quand même, c'était pas, même si le texte était flou, ça n'a jamais été, je crois, l'intention du ministre, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas complètement suicidaire et qu'il sait à quel point les relations entre enseignants du premier et du second degré sont complexes. Donc, je pense qu'il souhaitait vraiment avoir une mesure qu'il aurait pu appliquer avec une certaine liberté, c'est pour ça qu'il ne voulait pas un texte trop prescripteur, mais qui aurait pu effectivement permettre à des écoles primaires et des collèges de s'associer dans des territoires qui en ont besoin. Ça peut être des territoires insulaires, ruraux, ça peut être aussi en banlieue, Et finalement, la mobilisation prend sur ces questions, c'est un peu contradictoire.
Les parents aussi sont attachés à cette relation qu'ils entretiennent avec le directeur d'école, et donc on voit bien que effectivement, Jean-Michel Blanquer n'aurait pas eu l'audace et l'inconscience de supprimer totalement les directeurs et directrices d'école, comme ça a été craint à certains moments, mais parce que effectivement le texte est flou.
crainte que le ministre a qualifiée de bobard. Et là, il y a une tension assez énorme entre le ministre et une partie des enseignants, ceux qui étaient mobilisés, et les syndicats contestataires. Marie-Estelle Pech.
Je pense qu'il y a... parce qu'il faut quand même dire que ce texte, le Sénat a eu sa peau. Enfin, il était, c'est fini. Mmh. Donc, on parle d'un vieux sujet là.
Oui, parce mais que ça va revenir quand même.
Non, je pense que ça reviendra pas parce que le ministre a bien compris que c'était fini, notamment parce que les maires ruraux se sont fortement mobilisés sur le sujet en expliquant ce qu'ils craignent. En fait, des disparitions d'écoles. Parce que le vrai problème, c'est pas dans les villes. Enfin, les vraies craintes, c'est surtout à la campagne. Là où vous avez un maître avec trois ou quatre niveaux de classe différents. Et la crainte, c'était qu'effectivement, des toutes petites écoles comme ça soient fondues dans les collèges. Pour des questions d'économie et puis mais aussi pédagogique parce que c'est vrai que des toutes petites écoles avec une classe ou deux classes on peut se demander si ça a vraiment un sens pédagogique.
Et quel enseignant veut y aller ? Quel jeune enseignant sortant d'ESP a envie d'aller gérer une classe à ce niveau ?
C'est l'école de formation.
Par ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Jean-Michel Blanquer il y a pas longtemps. Pour lui, c'était vraiment, il y avait vraiment une raison pédagogique derrière ça. Il vous disait, il n'y a pas assez de lien, en fait, entre l'école primaire et le collège. La transition CM2-6e, on le sait, on a lu des dizaines de rapports de sociologues de l'éducation qui vous expliquent que c'est extrêmement difficile pour beaucoup d'enfants, surtout les enfants les plus faibles, de passer ce passage, que c'est très violent de passer d'un seul professeur à 10 professeurs en 6e et qui voulaient, par ce biais, éventuellement, améliorer davantage cette transition. C'était, je pense que la raison principale de ce texte, c'était ça. Et d'ailleurs, et ce qui a beaucoup agacé les enseignants, c'est que ça a été introduit, ça n'a pas été introduit au départ, ça a été introduit en cours de route par une députée. Donc ils se sont dit, oulala, il y a un loup, qu'est-ce que c'est que ce truc, on va nous le faire à l'envers. Parce qu'il y a énormément de méfiance quand même dans le milieu enseignant. Quand vous parlez de bobards, on peut quand même dire que il y a quand même un nombre de fake news de absolument hallucinantes, moi que je trouve, qui viennent du milieu enseignant. À commencer par quelque chose qui n'a rien à voir avec l'actualité, mais par exemple, nous ne sommes pas payés pendant les vacances scolaires. J'ai toujours eu des enseignants qui me disaient, mais nous ne sommes pas payés sur 12 mois, mais sur 10 mois, c'est pour ça que nos salaires sont faibles.
Étalés sur 12.
Donc on a, et effectivement, pendant cette loi Blanquer, on a eu énormément de fake news, mais qui reflète des craintes très fortes dans le milieu enseignant concernant des coupes budgétaires. On va me raboter mes horaires, qui sont éternels. Hein. On le voit avec la réforme du lycée. Chacun a peur pour son petit bout de gras. On va m'enlever une demi-heure en SVT. On va m'enlever une heure par-ci.
Non, ça va au-delà. Moi, je relève au contraire que oui, il y a des imprécisions. C'est notre travail de les relever, de nuancer évidemment ce qui se dit dans les défilés, mais moi au contraire, par exemple, que surgisse un mouvement un peu informel qui se veut agir en dehors des syndicats bien établis comme les stylos rouges, pour moi c'est vraiment un symptôme qu'il faut écouter. Il faut écouter. Moi, ça fait des mois et des mois que je parle avec des enseignants. Il y a une souffrance qui est réelle.
Alors ça, c'est autre chose.
Non, mais il y a une souffrance qui est réelle. Et le sentiment de ne pas être écouté par leur ministre de tutelle qui a tendance à leur expliquer d'en haut ce qu'ils doivent faire dans leur classe, c'est vécu comme une violence. Et par ailleurs, cet article 1 pour l'article 1 du projet de la loi Blanquer qui demande l'exemplarité, qui insiste sur l'exemplarité des enseignants, ça a été vécu comme une infantilisation permanente de leur de ce qu'ils sont et une volonté de restreindre l'expression publique des enseignants.
Une autre chose moi qui me pose problème en tant que professionnelle, c'est l'article 1 qui est pas clair, qui a finalement pas un fond légal avéré.
Pourquoi est-ce qu'on nous demande une telle exemplarité? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on mérite ça? Je veux dire, est-ce que c'est pas justifié les critiques? Est-ce qu'ils en ont peur? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de mettre le doigt dessus?
Le devoir d'exemplarité, les enseignants sont des vrais professionnels, ils savent pourquoi ils sont là, ils savent ce qu'ils ont à dire, à ne pas dire. Ils sont tout à fait au clair là-dessus et il n'y a pas besoin d'un article de loi là-dessus qui pourrait se voir autoritaire pour faire évoluer les choses.
L'extrait du même reportage publié sur le site du Parisien aujourd'hui en France, une référence à l'article 1 et à ce qui est attendu des enseignants. Ce sont des termes du projet de loi qui étaient cités par les manifestants. On a parlé de méfiance, c'est Marie-Estelle Pech qui a parlé de méfiance des enseignants envers le ministre. Est-ce qu'il n'y a pas une méfiance réciproque du ministre envers les enseignants à travers la formulation de cette loi? Est-ce qu'elle n'a pas été prise comme ça, Urvan Le Guélec?
Elle a été prise comme ça, manifestement, oui, même si l'article 1, visiblement, n'a pas une très grande portée juridique. On a bien vu que ça crée beaucoup d'incompréhension chez les enseignants. Ça peut se comprendre parce que tout à l'heure, Marie-Estelle disait, il y a des discussions. Il est quand même pas très à l'écoute. Il a effectivement une vision très précise de ce qu'il doit faire. Très clairement, les syndicats, ils considèrent l'ensemble des syndicats, pas seulement le SNES, mais aussi les syndicats réformistes, CFDT, considèrent qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec eux.
Le SNALC aussi.
Et même le SNALC, d'ailleurs.
Un petit peu de décryptage. Donc, le SNES, c'est le syndicat FSU majoritaire chez les enseignants du second degré. C'est un syndicat classé à gauche. Le SNALC, c'est un syndicat minoritaire qui est principalement installé dans le second degré et qui a des positions, en tout cas concernant la pédagogie, qu'on pourrait qualifier de plus conservatrice. Je brosse à grands traits, mais vous pouvez évidemment, si vous faites partie de ces syndicats, m'interpeller sur les réseaux, mais je crois qu'on comprend à peu près où se situent les uns et les autres. Urvan Le Guélec.
Oui, on peut dire, enfin, c'est en fait avec l'ensemble des syndicats et même peut-être plus largement avec l'ensemble des corps intermédiaires qu'il y a un problème d'écoute et de concertation. Ce qu'il fait, c'est Rodrigo Arenas à la FCPE, qui est donc la principale fédération de parents d'élèves française, qui soulignait
classé
ça.
Classée à gauche.
Classée à gauche, tout à fait, mais la principale. Et puis, je ne sais pas ce qu'en dit la PEP, mais je pense que le ministre n'est pas particulièrement à l'écoute sur cette histoire des directeurs d'école, où très clairement, il y avait beaucoup de procès d'intention de la part des syndicats, il y avait beaucoup de craintes infondées. Moi, je ne pense pas qu'il avait la volonté de faire disparaître les directeurs d'école. Néanmoins, les signaux étaient là d'un grand trouble chez les enseignants. Je crois que les journalistes le lui ont dit pendant plusieurs semaines. Pas de réaction. Les corps intermédiaires, syndicats, fédération de parents d'élèves le lui ont dit. Pas de réaction. Il a vraiment fallu que ça commence à grogner ça et que ça devienne glissant politiquement pour qu'ils réagissent. Et Arenas disait à l'FCPE, ben oui, le problème, si vous mettez les corps intermédiaires de côté, considérant que ça fait perdre du temps et qu'il faut avancer, vous vous trouvez en prise directe avec l'opinion publique, qui de fait est en proie aux fake news. Et ça, on le sait, opinion publique, opinion enseignante, les parents d'élèves, tous, les fake news circulent, c'est pas nouveau. Et donc, d'une certaine manière, c'est un peu l'arroseur arrosé sur cette affaire.
Mais enfin, il y a eu plusieurs affaires cette année d'enseignants convoqués par les instances académiques. Cette semaine, un article sur le cas de Sébastien Rome, qui finalement, c'est un directeur d'école qui avait pris des positions publiquement. Alors finalement, rien ne sera laissé dans son dossier, mais enfin, tout de même, il a dû prendre un avocat pour se défendre, se sentant remis en cause. Et
c'est un cas très particulier quand même.
C'est un cas
très... un élu. En fait, il est élu.
Est-ce que ça ne montre pas qu'il y a aussi une certaine défiance? Qu'en pensez-vous, Marie-Estelle Pech?
Moi, je pense que les enseignants dans ce pays ont une grande liberté d'expression qui ne se prive pas du tout pour critiquer leur ministre, leur hiérarchie. Je pense que c'est un métier où on a quand même beaucoup de liberté. Donc dire qu'on restreint la liberté des enseignants, je pense qu'on va, que c'est quand même aller un peu loin. Et cet article 1 ne fait que répéter ce qui est dit dans la loi. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire d'État, il doit de conserver une certaine réserve dans ses propos. Il dit pas...
Dans sa salle de classe, ce qui est différent.
Dans sa salle de classe, mais aussi à l'extérieur, quand il parle de son établissement scolaire. Par exemple, je me souviens d'une histoire qui date de fin 2018, une enseignante qui avait diffusé dans des fanzines des propos anti-Macron extrêmement violents. Donc une enseignante classée à gauche, voire plutôt à l'extrême gauche. Et elle signait Madame Tartampion, professeure de lettres au lycée du Chemol, de la ville du Chemol. Je suis désolée, on peut comprendre quand même que le nom d'un lycée n'a pas à être mêlé aux opinions politiques de cette enseignante. Ça, c'est des choses qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Dans le milieu de la fonction publique, vous ne retrouverez pas ça, évidemment, ni chez les policiers, ni chez les magistrats, ni dans n'importe quel, si vous voulez, autre domaine de la fonction publique. Donc, je trouve ça, et l'article 1 ne fait que le rappeler, en fait, c'est tout.
Mais
Pfizer, voilà.
Vous disiez que le cas Sébastien Rome était particulier. Non, quand on écoute l'interview incriminée, Sébastien Rome garde une certaine mesure. Il pose des questions, il ne diffuse pas de fake news sur justement ces établissements public des savoirs fondamentaux. Lui-même étant directeur d'école dans un territoire rural, il était concerné en premier chef par par cette disposition de la loi si elle n'avait pas été supprimée par le Sénat. Et le cas de Sébastien Rome est très intéressant parce que justement, comme vous le disiez, Louise, il a dû avoir recours à un avocat pour éviter que cette convocation par le DAZN n'apparaisse dans son dossier.
DAZN, c'est le directeur.
Ce qui est particulier dans son cas, c'était le mélange des genres, c'est-à-dire qu'il se présentait à la fois comme professeur des écoles. Je parle en tant que directeur d'école, pardon. Et je suis par ailleurs élue à la mairie de l'Audève, dans l'Hérault. C'est ça qu'on lui a reproché, en fait. C'est un cas qui est un peu particulier, quand même, je trouve.
Mais ce qui est juste, je voudrais ajouter quelque chose, ce qui est assez frappant, c'est que moi, désormais, tous les enseignants que j'interviewe, tous me réclament l'anonymat en me disant « on ne sait jamais avec l'article 1 ».
Il est 7h du matin, faut se réveiller, oh, je sommeille. Un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je souffle ma brosse à dents. Quelle passée celle-là encore. La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère, la jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un disque pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté.
Pour une bonne idée, une bonne mesure qui est de mieux scolariser les enfants de 3 ans, un tout petit nombre qui manque aujourd'hui, on déstructure complètement le système éducatif en finançant d'au moins 150 millions d'euros supplémentaires les écoles privées. Ce qui veut dire que demain, pour davantage financer l'école privée, on va demander aux communes de faire des économies sur leurs écoles publiques. On va affaiblir les écoles publiques communales au profit des écoles privées qui n'accueilleront pas plus d'élèves pour autant. Ça veut dire que potentiellement demain, on sera obligé de supprimer des postes d'ATSEM, baisser des crédits fournitures aux écoles publiques pour financer un forfait des écoles privées. Et c'est une aberration. Les conséquences, elles seront vraiment dramatiques pour les écoles publiques demain.
Damien Berthier, un élu qui s'inquiète de l'instruction obligatoire à 3 ans parce que cela a un impact donc sur le financement, y compris des écoles privées. Marie-Estelle Pech, vous venez de consacrer un article à cette question. Alors là, c'est la maternelle et ça devient un gros sujet pour le financement de l'école. Et puis la guerre privée-publique, est-ce qu'elle pourrait être relancée ?
Alors franchement, j'y crois pas une seconde, même si effectivement un certain nombre de syndicats et puis bien entendu le comité d'action laïque et puis les adversaires de Jean-Michel Blanquer agitent ce chiffon rouge. La vérité, c'est qu'en fait, l'obligation de la scolarisation à 3 ans était dans le programme, certes, du président de la République,
Emmanuel Macron.
Mais également de Benoît Hamon ou encore de la France Insoumise. Hein. Donc, c'est quand même pas non plus... ces deux personnes, que ce soit Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon, s'ils étaient arrivés au pouvoir, auraient dû fatalement financer l'école privée.
À hauteur de 150 millions.
À hauteur de 100 à 150 millions d'euros.
Pour
les communes. C'est obligatoire depuis la loi Debré 1959. Il doit y avoir parité de financement entre le privé et le public. La scolarisation, ou plutôt l'instruction, devient obligatoire à partir de l'âge de 3 ans et non plus de 6 ans, ça signifie que les municipalités doivent financer les frais de fonctionnement des écoles privées des maternelles privées, pardon, comme elles le font déjà
pour les élémentaires.
Pour l'élémentaire et pour les maternelles publiques. Donc c'est un surcoût, effectivement, qui est, on peut pas dire que ce soit considérable non plus, parce que 150 millions d'euros, c'est important, mais c'est divisé quand même sur l'ensemble des communes de France. Mais c'est vrai que c'est un surcoût. Donc un certain nombre de communes a commencé, qui ont donné de la voix par le biais de l'Association des maires de France, parce que Jean-Michel Blanquer leur a expliqué qu'ils compenseraient ces financements qu'ils allaient devoir avancer, mais uniquement pour les communes qui n'avançaient rien jusqu'à présent. Donc, comme le disent les représentants éducation de l'Association des maires de France, ceux qui ont joué le jeu, c'est-à-dire qui finançaient le privé depuis des années et des années, notamment dans l'ouest de la France, où parfois dans certaines communes, on n'a que l'école privée qui est présente pour des raisons historiques. Et puis là-bas, il n'y a pas vraiment de guéguerre privée-publique, contrairement à d'autres endroits. On peut avoir effectivement ce problème, effectivement, de qui naît, mais pourquoi on n'est pas financé, alors que nous, on fait des efforts. Et les communes qui ne le faisaient pas souvent pour des raisons idéologiques, parce qu'elles étaient de gauche, c'était très laïcardes, etc., se retrouvent récompensés finalement pour leur non-financement, c'est injuste, etc. Enfin là, on entre dans des querelles de chapelle entre communes.
Alors sur cette question du public-privé, Gurvan Le Gallec.
Oui, effectivement, 150 millions, le privé a le droit d'être aidé, il y a la liberté du choix, mais c'est quand même un joli cadeau, et il faut rappeler que la loi Debré oblige, à partir du moment où il y a la scolarisation obligatoire, à financer le privé, mais la loi Debré ne prévoit aucune contrepartie, la loi Debré, excusez-moi, étant aussi et pas une loi si évidente que ça, elle est en contradiction avec la loi de 1905 sur la laïcité, qui a priori stipule que l'État ne reconnaît aucun culte, donc n'a pas particulièrement à financer des écoles confessionnelles. Et le petit problème, c'est que on parlait de l'ouest de la France, où c'est vrai, le privé est très implanté et a une sociologie qui est assez similaire à celle du public. Par contre, dans les grandes métropoles, c'est pas le cas. Les écoles privées, on le sait, à Paris et dans la petite ceinture, ont une sociologie très favorisée, contrairement au public, participent au processus de ségrégation scolaire qui sont très 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 forts dans nos métropoles également, et venir favoriser le développement des maternelles, notamment dans toute la banlieue proche de Paris où on a déjà des gros problèmes d'évitement des écoles publiques dès la primaire, c'est peut-être pas totalement malin. Il y avait peut-être moyen de dire chiche, ok, on y va, on finance, mais en contrepartie, le privé s'engage à prendre en charge une partie de l'effort en s'imposant, en remettant en cause sa liberté complète de recrutement et en essayant de prendre aussi des gamins qui sont un peu plus défavorisés.
Avec une politique de quotas, c'est pas de la science-fiction, hein, ça existe dans d'autres pays, en Angleterre, en Grande-Bretagne par exemple, ça peut être mis en place, des pays qui par ailleurs reproduisent moins les inégalités sociales que la France. C'est facile à faire puisque nous sommes champions en la matière. Faïsa Zerwala, sur cette question du financement des maternelles privées, du privé, du public et puis de la maternelle, si vous voulez prolonger.
Moi, je pense qu'en effet, la question du financement révèle un sujet crucial autour de cette question du privé qui devient vraiment crucial dans certaines zones. Je ne vais pas répéter ce que vient d'expliquer Gurvan, mais en effet, voilà, le privé qui est donc à 95% du privé catholique refuse d'alimenter la guéguerre publique privée en disant non, on n'a pas du tout les mêmes visées. Mais en réalité, le privé se nourrit des lacunes réelles ou supposées du public, et ça, c'est un problème réel qui se pose de manière de plus en plus cruciale sous nos yeux. Cette idée de mixité sociale, ça ne doit pas rester un débat d'idées. Et le signal envoyé avec cette obligation de financement, il est quand même pas génial. Et ça accroît aussi ce reproche qui est fait à Jean-Michel Blanquer de créer volontairement ou involontairement une école à double vitesse.
Ceci dit, encore une fois, c'est la loi. C'est-à-dire, on peut dire que mais c'est la loi, c'est la loi Debré, c'est l'application de la loi Debré.
Évidemment, d'une ça part, personne ne le remet en cause, mais après c'est la
question de
la
loi.
Voilà, sur la compensation,
et d'autre part, effectivement, au secrétariat général de l'enseignement catholique, ils sont extrêmement prudents. Évidemment, ils sont contents d'avoir de l'argent en plus. Et à quoi va servir cet argent? On peut aussi le rappeler quand même. Il va servir à pérenniser des emplois qui sont très précaires dans le privé. Il faut savoir que c'est beaucoup plus on a beaucoup plus d'emplois précaires dans l'enseignement privé que dans l'enseignement public, d'une part.
Ils sont moins payés aussi.
Ils sont moins payés. D'autre part, et beaucoup de turnover, du coup, surtout dans les personnels de surveillance,
et des enseignants, etc. Moins qualifiés,
les remplaçants,
ils vont pouvoir avoir davantage d'ATSEM. Le privé a beaucoup moins d'ATSEM que le public. Les ATSEM, ce sont ces personnes qui vont travailler dans les écoles maternelles. Par ailleurs, ils réfléchissent à une modulation des tarifs, ce qui n'existe pas aujourd'hui, ou très peu dans l'enseignement privé, et ce qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire davantage de mixité sociale. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des tarifs axés davantage sur le quotient familial, ils vont, que ce soit le représentant du diocèse de Paris ou représentant national, m'ont expliqué que ça pourrait aller dans ce sens-là, et éventuellement aussi diminuer de ce fait, parce qu'après tout, aujourd'hui, qui paye ces frais de fonctionnement sont les parents dans le privé. Donc de ce fait, pour leur redonner une partie de la monnaie de leur pièce, baisser un peu leurs contributions.
Il faut quand même rappeler qu'il y a 3% d'enfants défavorisés dans les écoles privées parisiennes. Voilà, 3%.
Et il ne faut pas oublier non plus que cette réforme, elle vise quand même à ce que plus de 20 000 enfants, on n'en parle pas du tout là, mais c'est quand même le point de départ, c'est ça, que 20 000 enfants d'origine plutôt quand même défavorisée, voire très défavorisée, aillent à l'école en maternelle. On parle par exemple dans l'académie de Créteil, on a beaucoup de gens d'enfants comme ça, dont les mamans ne travaillent pas et qui ne vont pas en cours, elles préfèrent les garder avec elles. Alors qu'on sait bien qu'en termes de développement de vocabulaire, d'apprentissage, sociabilité, etc., etc., c'est quand même plus intéressant pour eux d'être en maternelle que de rester chez eux.
Mais pour tous les enfants, évidemment, la maternelle, tout le monde au moins ici, et pour l'école, on a quelques minutes à peine, même pas, pour parler du bac et de la réforme du lycée. Alors on va pas faire le tour de la question, et puis on l'a déjà un petit peu évoqué, mais juste, c'était une réforme qui a souvent été tentée. Est-ce qu'elle est réussie cette fois-ci, réformer à la fois le lycée et le baccalauréat? Est-ce que c'est en train d'arriver en France après plein de tentatives et plein d'échecs? Gurvan Le Gallec.
Ah, moi, je trouve qu'il est très doué sur cette réforme. Il est très doué parce que tout le monde avait essayé, personne n'avait réussi, et qu'il est quand même en train de réformer le lycée. Alors, il n'est pas en train de réformer le lycée, c'est ça qui est génial, il réforme le baccalauréat. Et c'est peut-être la clé. C'est-à-dire qu'au lieu de s'attaquer frontalement, comme l'avait fait Najat Vallaud-Belkacem, au collège, et donc en disant « je vais changer toutes les structures », non. Là, il change l'examen terminal auquel tout le monde se prépare quand on est au lycée, et les enseignants étant quand même focalisés sur, parce que ce sont des bons professionnels, ils sont focalisés sur la réussite de leurs gamins, les enseignants sont obligés d'une certaine manière de se mettre en ordre de marche, et l'ensemble de la structure est obligé de se mettre en ordre de marche parce que le bac change. Le bac, on le passera en ayant pris des spécialités qu'on aura choisies réellement, d'ailleurs qu'ils sont en train de choisir nos secondes pour l'année prochaine, et donc les bahuts, les lycées ont été obligés, les proviseurs avec les enseignants, de se mettre d'accord sur les spécialités qu'on allait proposer, sur le nombre de possibilités de combinaisons qu'on allait offrir, à quel prix. Ça, c'est toute la question. C'est-à-dire, tout ça va prendre du temps, parce que plus on offre de spécialités, plus ça prend de l'heure d'enseignement, et les heures d'enseignement ne sont pas illimitées. Donc, ça pose la question de l'accompagnement, qui est crucial également, parce que pour choisir, il faut être accompagné. Et là, on peut se demander si on aura les moyens de faire le boulot pour que chacun puisse choisir librement, mais de manière sereine, sérieuse et sans que les biais sociaux retransforment.
À nos émissions de décembre et aux inquiétudes formulées par exemple les syndicats lycéens sur cette question. Un mot, Faïza Zerwala.
Ouais, moi, ce qui me frappe, c'est, je pense qu'il y a un point crucial sur lequel on doit rester vigilant, c'est en effet la réforme, elle est faite à marche forcée, avec plus ou moins d'improvisation. Les lycées, les établissements doivent suivre. Moi, le point crucial, c'est cette question des inégalités, parce que c'est bien beau de donner le choix à des élèves. Encore faut-il que ce choix soit accompagné. Et évidemment, un élève dont les parents sont profs ou médecins ou avocats, qui ont une certaine maîtrise du système scolaire, vont réussir à faire des choix beaucoup plus construits, alors qu'un élève qui n'a pas forcément des parents qui maîtrisent la langue française, qui ne sont pas forcément à l'aise, vont avoir forcément plus de difficultés.
Et qui ne connaissent pas le supérieur.
Qui ne connaissent pas le supérieur, qui ne peuvent pas se projeter, qui n'ont pas programmé leur enfant pour faire Sciences Po depuis qu'il a 2 ans et demi. Ben pour eux, ça va être fatalement beaucoup plus complexe, en mettant en plus les mécanismes d'autocensure qui sont cruciaux dans la question de l'orientation. Donc moi, je pense que c'est vraiment ça qui va être bouleversé, c'est cette question des inégalités qu'on va peut-être pas aggraver, mais qu'on va pas corriger.
Et on en revient toujours donc à cette question qui reste la question fondamentale de l'éducation en France, la reproduction des inégalités. Et je pense que nous aurons l'occasion d'y consacrer encore et encore d'autres numéros d'Être et Savoir. Merci beaucoup à tous les trois. Gurvan Le Gallec, l'Obs, Marie-Estelle Pech, Le Figaro, Faïsa Zerwala, Mediapart. Mediapart qui organise une soirée de solidarité avec le soulèvement démocratique en Algérie. Cette soirée, ce sera le 17 juin à Bobigny, je peux le dire, parce que c'est entrée libre. Et parmi les artistes invités, la chanteuse Swad Massi.
بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن أريد من زمن ذان يبلغني ما ليس يبلغ من نفسه الزمن لا تلقى دارك إلا غير مكترث ما دام يسحب فيه روحك البدن فما يديم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثم انطفت فزال القبر والكفن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن مما أضر بأهل العشق أنهم هوى ومعرف الدنيا ومفاطن تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن تحمل حملتكم كل ناجية فكل بين علي اليوم مؤتمن ما في هواتجكم من موجتي عوض إن مت شوقا ولا فيها ثمن كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثم انطفت فزال القبر والكفن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن يا من نعيت على بعد بمجلسه كل بما زعم النعون مرتهن قد كان شاهد دفن قبل قولهم.
Et c'est la leçon de choses de Sophie Bobert avec Benjamin Chaud, grand illustrateur jeunesse. Il adore le rose et nous emmène dans les arbres et dans les Alpes, premier lieu de son inspiration.
Alors moi je viens des Hautes-Alpes et c'est des paysages de neige et de très hautes montagnes. Et ma maison était la plus haute du village et il n'y avait pas de barrière. Et moi je sortais et j'étais dans la forêt, dans la montagne et j'étais très solitaire. Moi j'ai quand même passé beaucoup de temps petit à bouder dans un arbre. Je crois quand même, c'était ma préoccupation, ouais, ma principale occupation.
Mais alors vous dites que vous aimiez bouder en haut des arbres tout seul, mais pourquoi étiez-vous un enfant si boudeur, Benjamin Chaud ? Vos dessins sont particulièrement souriants, tendres, délurés même.
Alors j'aimais pas bouder, hein, je me rendais triste tout seul, mais j'étais toujours déçu. Par la réalité, je pense que j'avais une trop grosse attente de ce qu'allait être ma journée. Et dès que quelque chose n'allait pas, ça ratait. Et du coup, moi, c'est pour ça, je pense que je dessine. C'est parce que je me crée ma propre réalité. Je fais mon univers qui sera comme je l'ai décidé et pas comme ça va se passer vraiment. Et moi, je pense que j'ai un problème avec la réalité. Et c'est dessiner, c'est fuir cette réalité-là et pouvoir m'inventer ma propre réalité, mon monde où je suis le petit dieu tyrannique qui fait, qui décide de tout. Moi, j'ai dessiné tous mes souvenirs sont avec des dessins dedans. Quoi, j'ai toujours dessiné depuis tout petit, et c'est ce que je faisais le mieux. Alors, est-ce que c'est parce que ça me plaisait que je le faisais bien, ou c'est parce que je le faisais bien que ça me plaisait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je voulais être le plus fort en dessin de ma classe depuis la maternelle. Mmh. Et je l'étais. C'était pas difficile. C'était un village de montagne. Il y avait 12 enfants. Donc, je pensais que j'avais vraiment ma place dans le monde du dessin, parce que j'étais le plus fort de ma classe. Et ensuite, au collège, j'ai continué à dessiner contre l'avis des professeurs, alors que dessiner n'empêche pas d'écouter. Je me souviens que je suis assez fier d'un bulletin de terminale en histoire-géographie où j'ai 0 de moyenne générale, et il y a écrit « dessine » en capitale. Et moi, je l'ai pris un peu comme plutôt un ordre qu'un reproche.
Alors, il y avait les arbres, il y avait le dessin, mais il y avait aussi la lecture, dont un livre, je crois, qui vous a beaucoup marqué, c'est Rose Bonbonne. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce livre, et nous expliquer pourquoi vous a-t-il tant marqué?
Alors, moi, j'ai grandi dans les années 70, et ma marraine m'offrait beaucoup de livres. Et dans les années 70, il y avait une maison d'édition qui s'appelait les éditions des femmes, qui étaient des livres féministes. Et il y avait cette histoire d'éléphant qui s'appelait Rose Bonbonne, et qui est rééditée par Actes Sud, je crois. Et en tout cas, c'est l'histoire d'une éléphante qui est obligée de rester sagement assise dans des vêtements roses, à manger des pétales de rose, parce qu'elle est une fille et qu'elle peut pas aller jouer avec les garçons éléphants dans la boue, se rouler de par terre, et
que ça va la salir, hein.
Parce que ça va la salir, et que les filles doivent rester roses et propres et sages. Et moi, je me souviens que j'étais complètement fasciné par les dessins roses, parce que les pages étaient grandes. Là, il est réédité en plus petit, et c'est dommage, parce que moi, quand on est petit et qu'on a un grand livre, on rentre dans l'image. Et moi, je me souviens d'expériences complètement psychédéliques où je rentrais dans le dessin complètement rose. Et sûrement, en tout cas, il a eu l'effet inverse de ce qu'il voulait, c'est-à-dire que ce livre voulait dénoncer le côté rose pour les filles, un peu cucu la praline, et moi, c'est ce que je voulais, c'était ce rose-là, je voulais en manger, je voulais me rouler dedans, je voulais être habillé dans ces grandes robes roses brillantes en taffetas ou en satin, je ne sais pas.
Et on retrouve cette patte-là dans la série des Pomelos, où c'est l'histoire d'un éléphant rose.
Oui, voilà. Et c'était avec donc Ramona Badescu, qui est l'auteur et qui a imaginé cet éléphant. Et j'ai dû batailler pour qu'il soit rose, parce qu'elle l'avait décidé petit avec une grande trompe. Mais c'est moi qui ai défini la couleur. Et elle, en tant que femme, elle voulait pas de rose. Et finalement, elle est d'accord. Elle était d'accord, et c'est très bien.
Lorsque vous reprenez vos premiers dessins d'enfance, c'était déjà aussi appliqué. On sent la touche déjà très très attentionnée.
Ben oui, je pense. Moi, j'ai vraiment un problème avec ça, c'est que j'essaye de perdre le contrôle ou de lâcher un peu le contrôle et d'être plus flou et plus dans la peinture et plus dans quelque chose de gestuel. Mais j'arrive pas. Je sais pas comment faire et je peux pas ne pas tout contrôler. Je sais pas comment ne pas contrôler, en fait. J'essaye désespérément, mais chaque fois ça me ramène là où je suis, en fait. Et tant pis, c'est ça, c'est moi, et je peux pas non plus.
C'est votre patte, on vous reconnaît complètement comme ça, en fait, maintenant.
Ben oui, non, mais et puis il a fallu que je l'accepte, en fait. C'est ça mon style.
Pomelo, l'éléphant rose et son papa Benjamin Chaud, auteur et illustrateur, sont exposés jusqu'au 12 juin à la galerie Robillard. La semaine prochaine, on reste à l'école, enfin pas totalement à l'école, on va parler du bac philo et puis de la place de la philo au lycée et au bac. N'oubliez pas de nous podcaster cette émission ou les émissions passées. Je vous dis à très bientôt.